pas prié. Seigneur, nous tournons nos cœurs et nos regards vers toi pour te dire merci pour l'occasion de nous donner encore de nous rassembler et de partager ces quelques moments. Seigneur, ce sont des moments bénis car, oh Dieu, c'est là où tu nous instruis, c'est là où tu nous enseignes et c'est là où tu nous montres comment nous devons marcher. Mais Seigneur, oh Dieu, l'enseignement n'est pas suffisant. Nous avons besoin de ton Esprit, Père éternel, oh Dieu, car sans lui, tout ce que nous faisons n'est que vain. Et c'est pourquoi nous sollicitons ta grâce. Pardonne chacun de nos pères et agrée-nous en ta présence. Maintenant, conduis-nous pour ces quelques moments. Que ton intelligence, que ta grâce, oh Dieu, nous conduise en toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère François ne saura pas être là aujourd'hui. Il a des choses à faire pour demain, en fait. On va continuer avec Abraham. Aujourd'hui, le titre sera « Abraham en Égypte et Abraham à Guérar ». Faites bien la distinction « Abraham et Abraham ».« Abraham en Égypte et Abraham à Guérar ». Nous avons vu la fois passée qu'Abraham, après s'être installé dans le pays que Dieu lui avait promis, va devenir réfugié, fuyant ce pays à cause de la famine. Et là, s'est passé quelque chose d'horrible où Pharaon a pris Sarai, la femme d'Abraham, comme sa femme, à cause du mensonge qu'Abraham avait fait en connivence naturellement avec sa femme, disant qu'ils étaient frères et sœurs, ce qui était vrai, mais pas tout à fait vrai. Il avait omis de dire que Sarai était sa femme. Certainement, ce qu'a fait Abraham à sa femme, cet acte l'a suivi toute sa vie. Sa femme ayant été dans les bras d'un autre homme à cause de sa peur, de sa lâcheté. Même l'idée que sa femme soit avec un autre homme devait le révulser. C'était dur pour lui, très dur. Malheureusement, Abraham va récidiver avec son mensonge et sa peur auprès d'Abimélec. Il va exactement faire la même chose avec Sarah. Mais cette fois-ci, Dieu va intervenir auprès d'Abimélec pour que ce qui était arrivé en Égypte ne se reproduise pas. Nous y reviendrons plus tard. Je disais tout à l'heure qu'il y a Abraham et Abraham. Quand on n'est pas converti, on pense plus à soi qu'à son prochain. On a du mal à se sacrifier pour l'autre. Abraham aimait plus sa propre vie que la vie de Sarai. Celle-ci n'avait que peu de valeur en rapport à sa vie car il était tenaillé par la peur pour sa vie. Je ne sais pas qui lui a dit que les Égyptiens n'honoraient pas les femmes d'autrui. Qui lui a dit que dès que ces Égyptiens voyaient une femme belle, eh bien, ils allaient avec elle. Parfois, nos préjugés, notre imagination nous jouent des tours. Parfois, ce sont des peurs irrationnelles qui nous font faire n'importe quoi. On se fait des films soi-même. Et à cause de cela, sa femme fut amenée chez Pharaon, qu'il a pris pour femme. Et comment Abraham devait-il se sentir mal et malheureux en pensant que sa femme au palais partageait la couche de Pharaon? C'était dur pour lui. C'est la pire des tortures qui soit. Et là, nous parlons du père de la foi. Il avait l'appel de Dieu, mais Dieu devait encore travailler en lui pour arriver à sceller l'alliance avec lui. L'appel n'est pas l'alliance. L'appel n'est que le début de quelque chose. C'est l'alliance qui te garantit une protection maximale. Et donc, Dieu devait lui ôter cette peur. Et la seule façon, c'est qu'il soit en alliance avec Abraham. Tu as peut-être entendu l'appel du Seigneur, mais le Seigneur doit encore travailler en toi avant de sceller cette alliance avec toi. Dans ton état, il ne peut pas s'unir à toi. Tu dois naître de nouveau, tu dois naître de l'Esprit de Dieu et avoir ton intelligence renouvelée et ne plus te conformer au monde. Remarquez, Dieu n'aime pas l'hybridation. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu est lumière. Abraham avait entendu l'appel divin, mais il n'avait pas encore une confiance totale en ces dieux-là. Et il ne les connaissait pas encore vraiment. Mais c'est au travers de toutes ces épreuves qu'Abraham va apprendre à connaître Dieu. Ceci nous montre que tout n'est que grâce. Comment vaincre la peur? Il nous faut le baptême de l'Esprit. Il te faut l'Esprit de Dieu, car le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité ou de peur. Ça, on peut lire ça dans 1 Timothée 1 et 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sarai a accepté la proposition irresponsable d'Abraham, même si c'était dur pour elle. Mais elle a dû se résoudre à accepter cela parce qu'elle voulait protéger son mari. Elle a donné son accord malgré ce qu'elle risquait. Les féministes diront que ça, ce n'est pas de l'amour, c'est exploiter sa femme et que sa femme aurait dû s'affirmer pour ne pas accepter cette proposition indécente. Laissons cela de côté. Qu'on puisse penser de Sarah, ce qu'on peut penser de Sarah, elle a donné son accord par amour, même si pour nous, cela peut paraître comme une extrémité. C'est dur. Remarquez, Sarah a donné son accord. Chers hommes, si vous ne voulez pas que votre mariage tombe en moule, ne faites jamais des choses sans l'accord de votre femme, surtout sur les questions importantes. Rappelez-vous que c'est une aide que Dieu a mise à votre côté. Faites toujours les choses dans l'intérêt de la famille. Et l'intérêt de la famille, c'est d'abord l'intérêt de la femme. Et pas d'abord ton intérêt à toi. C'est ça la grande responsabilité de l'homme. Sinon, laisse-la tranquille, ne l'épousez pas. L'homme est la couverture de sa femme. N'oubliez pas que Christ s'est sacrifié pour son épouse. C'est ce que l'homme est censé faire. Consultez, dialoguez avec votre femme avant de prendre une décision et pesez les bien fondés d'une telle ou d'une telle autre décision. Je répète, Dieu l'a mise à vos côtés en tant qu'aide, même si la décision finale vous revient. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Souvenez-vous-en, une maison divisée ne peut pas subsister. C'est pourquoi il y a tant de divorces, même dans les milieux dits chrétiens, et des couples qui n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre, qui sont séparés de corps et d'esprit. C'est déjà un divorce de fait à cause de l'homme qui pense que parce qu'il est chef, alors il peut faire ce qu'il veut. Vous serez content de votre décision, mais vous risquez de perdre votre femme. Ne laissez pas le diable vous jouer des tours. Le mariage, ce sont deux âmes qui ont décidé de s'unir et de marcher ensemble dans les bonheurs et dans les malheurs, mais pas au détriment de l'autre. Ne critiquez surtout pas. Les lits sur lesquels tu n'as jamais dormi, tu ne sais pas ce qui y pique. Priez seulement, car la vie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi la Bible dit, pour les hommes, ne vous éloignez pas l'un de l'autre, sinon pour vaquer à la prière, et puis retourner ensemble. Dieu veut l'unité. Dieu veut que vous soyez un même cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit d'Abraham. Est-ce qu'il se disait que peut-être que Dieu lui donnerait un enfant par une autre femme, comme Sarah était stérile. Mais Dieu avait un plan que le diable a voulu court-circuiter. Le diable, par Pharaon, a souillé le sein de Sarai, comme le serpent a souillé le sein de la femme d'Adam. De même, avant qu'Abraham ne puisse avoir un enfant selon la promesse, Pharaon était passé par là. Vous voyez comment le diable n'aime pas la postérité de la femme. Heureusement que Sarah était stérile et qui plus est, elle était bien au-delà de la ménopause. Sinon, le cours de l'histoire aurait pris peut-être une autre tournure. Malgré qu'elle a été souillée par Pharaon, c'est par elle et par elle seule que le fils promis Isaac, type de Christ, devait arriver. C'est la grâce de Dieu. Mais il y a une chose que Dieu a faite d'abord, Dieu l'a changée. Sans changement, il n'est pas possible d'avoir la vie de Dieu. Vraiment pas possible. Donc je disais, Dieu devait d'abord la changer pour que les miracles de la vie soient possibles dans le sein de Sarah. Et c'est exactement la même chose. Dieu doit nous changer d'abord avant que les miracles de la vie soient possibles. C'est exactement comme la femme Ève a été souillée par les serpents. Mais c'est par la femme que le relèvement de l'humanité, c'est-à-dire Christ, la semence de la femme, est arrivée. Et cette semence a écrasé la tête du serpent. Cela dépasse l'entendement humain. Abraham voyait la beauté de Sarah, mais il ne voyait pas que Dieu était un protecteur. Il fallait qu'il l'expérimente malheureusement et douloureusement. Et les grands de Pharaon ont remarqué que Sarai était fort belle. C'est souvent les femmes des autres qui sont fort belles. La sienne, elle est juste belle. La maison du voisin est toujours plus belle que la sienne, dit-on. Certainement, Sarai était coquette et distinguée, car à plus de 65 ans, elle ne laissait pas indifférente. Elle n'était pas de celles-là qui se négligent. Elle prenait soin d'elle comme il se doit. Car une femme peut être belle, mais si elle ne prend pas soin d'elle-même, les hommes seront moins intéressés. C'est comme ça que des rois couraient après elle. Le nom de Sarah signifie princesse. Alors, elle était de la classe des rois et des princes. Il n'y a que les rois qui la courtisaient. Sa beauté alliée à sa coquetterie a fait des ravages parmi les rois. Mais une chose, la beauté ne suffit pas pour se marier. Il faut aller plus loin, voir si elle a la beauté du cœur. C'est ça l'essentiel. Bien, même si le mal était fait, car Sarah était devenue la femme de Pharaon pendant un temps, Dieu l'a sortie de là en frappant Pharaon et sa maison. Même quand Abraham n'était pas encore dans l'alliance avec Dieu, Dieu était avec lui. Je l'avais dit la fois passée, le fait que vous n'avez pas encore connu Dieu, Dieu était toujours avec vous, vous protégeant, jusqu'à ce que vous arriviez à lui. Et Pharaon a compris que le problème venait de cette femme qu'elle a eue en son sein. Probablement, ses devins et ses enchanteurs le lui ont dit. Qu'est-ce que va faire Pharaon? Il va expulser Abraham de l'Égypte. Mais avant qu'il ne parte, Abraham était bien traité à cause de Sarah. Et le Pharaon lui a donné beaucoup de biens et de serviteurs. Ça veut dire qu'Abraham s'est enrichi sur le dos de Sarai. Terrible. Bien. Mais souvenez-vous, la femme d'autrui, faites attention. Beaucoup d'autres péripéties vont se passer dans la vie d'Abraham lorsqu'il est rentré à Sichem ou dans la terre promise. Mais nous n'allons pas détailler ces étapes-là, nous allons passer à autre chose, voir le nom d'Abraham va être changé en Abraham et le nom de Sarai en Sarah. On parlera peut-être de ces deux noms, de ces quatre noms, puisqu'il y a Abraham, Sarai, Abraham et Sarah. Et je crois que j'en avais parlé pour dire que Dieu s'est incrusté dans les noms d'Abraham et de Sarai. Donc, après que Dieu ait changé son nom, remarquez, normalement, quand on donne un nom à quelqu'un, c'est généralement un enfant. Ça veut dire ici, c'est un type de naissance pour Abraham. On lui donne un nouveau nom et aussi à Sarah. Donc, après que les noms soient changés, Abraham va se rendre au royaume de Guérar, chez le roi Abimélec. Malheureusement, là-bas, il va récidiver. Il n'était pas encore délivré de sa peur de mourir à cause de la beauté de sa femme. Mais nous avons dit, pourtant, son nom était déjà changé. Mais il avait encore peur. La Bible parle de l'homme charnel. Tu es né, mais tu es encore charnel. Bien. Donc, il y avait encore en Abraham des choses que Dieu devait travailler. Et là, Abraham va dire à tout le monde que Sarah est sa sœur. Il dissimule le fait que Sarah est sa femme et aussi sa femme. Même problème en Égypte. Même problème qu'en Égypte. Lisons Genèse 20. C'est là que nous tirons le texte de ce jour. Il sera assez court. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, comme en Égypte. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Sarah avait un cœur d'or, hein? C'est pas possible. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, Ferais-tu périr même une nation juste? Ça veut dire que à Guérard, il craignait Dieu, parce qu'il dit une nation juste. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Oui, mais le fait de dire sa sœur ne te donne pas le droit de l'enlever. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Il omet quand même de dire qu'il l'a enlevé. C'est bizarre. Et elle-même ne m'a-t-il pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Remarquez, Dieu empêche Abimélec de pécher parce que lui aussi était un croyant. Dieu protège les siens. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Vous pouvez lire ce qu'il y a dans la suite. Passons au 10. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. La peur est quelque chose d'horrible. De plus, il veut se justifier. Il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Tu aurais pu le dire avant. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » En fait, il continuait dans son mensonge. Abraham semble ne pas avoir appris la leçon. Et tant que tu n'as pas compris la leçon, la même chose, la même tentation se répétera jusqu'à ce que tu comprennes et que tu sois vainqueur. La nature a ceci de particulier, c'est que tant que tu n'as pas réussi le test, tu ne passes pas de classe. Et cela continuera à revenir d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi tu as des luttes au-dedans de toi, car tu ne luttes plus pour quelque chose que tu as vaincu. En fait, les luttes en toi montrent qu'il y a encore des choses qui doivent être traitées. L'imagination d'Abraham lui a joué des tours. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. C'est son imagination. La beauté de Sarai était vraiment éclatante, car tant les puissants que les rois en étaient fascinés et en tombaient amoureux. Dieu lui montrait à Abraham de nouveau, au travers de cette situation, qu'il est le Dieu protecteur et qu'il n'a pas à avoir peur des puissants et des rois et que sa femme est en sécurité car Dieu veille. J'ai sauté l'épisode où il est parti combattre les rois. Donc il est parti combattre les rois. Là, il n'avait pas peur, mais ici, il a peur. Très étrange. Quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, la peur te tenaille et prêt à mentir pour te tirer d'affaire. tes bêtises sont le résultat d'une vie sans l'Esprit de Dieu et que tu es encore soit dans le processus de transformation par Dieu, ça veut dire que tu n'y es pas encore, ou soit tout simplement tu n'es pas de Dieu. Il n'y a pas de moyen terme. Ici, Dieu va donc avertir en songe Abimélec que s'il touchait à sa femme, il serait un homme mort, car cette femme était mariée. Abimélec était un homme qui avait la crainte de Dieu, au contraire de Pharaon. Dieu va le protéger pour ne pas commettre adultère, même s'il ne savait pas vraiment que Sarai était mariée. Les pas des enfants de Dieu sont conduits par Dieu. Une chose quand même, Dieu va frapper de stérilité la maison d'Abimélec, sa femme et ses servantes. En Égypte, c'était Pharaon et sa maison qui étaient frappés. Pour tout ça, c'est à cause du mensonge d'Abraham. Dieu va sanctionner les nations. Dieu est déroutant. Ouais, très, très déroutant. Donc, remarquez, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous préviendra d'une manière ou d'une autre si vous voulez commettre quelque chose de faux, car le Saint-Esprit est en vous. C'est ce qu'il dit à Abimélec. Aussi j'étais empêché de pécher contre moi. Il dit contre moi. Abraham, le coupable, car il avait menti sur Sarah, va prier pour Abimélec, l'innocent, pour qu'il ait la vie sauve, lui et tout ce qui lui appartient. Allez-y comprendre. Qu'est-ce que nous aurons dit de cela, ou qu'est-ce que nous disons de cela? Ainsi, sa femme et ses servantes purent à nouveau enfanter. Attention aux prophètes. Dieu sait comment il traite avec eux. Nous voyons aussi que Abimélec était un roi juste et sage, car il avait les soucis du bien-être de son royaume, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains pays, particulièrement des présidents. Si nous lisons au 9, Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Cela nous montre qu'il y avait de la crainte dans ce royaume, la crainte de Dieu. Abimélec va donner à Abraham des biens, des animaux, des serviteurs et des servantes. Comme chez Pharaon, Abraham va avoir beaucoup de biens. En fait, Abraham s'enrichissait souvent sur le dos de Sarah. Chaque fois qu'il allait quelque part et qu'il mentait, eh bien, il devenait riche à cause de Sarah. Vous parlez de la puissance de la femme. Alors, en retour, il y a aussi autre chose qu'on peut voir. Abimélec, on a vu qu'il va donner des biens, mais il va aussi donner 1000 pièces d'argent, sorte de voile sur les yeux de Sarah pour la justification de celle-ci. Je ne sais pas vraiment ce que cette expression veut dire, mais Le voile est un signe, est un symbole pour montrer qu'on dépend d'une autorité. Vous pouvez lire ça dans Corinthiens, je crois. Et en mettant ce voile, il montrait qu'il y avait une autorité au-dessus de Sarai. Pardon, Sarah, pas Sarai, Sarah. Et que l'autorité était le prophète Abraham. Et donc, personne ne pouvait encore faire quoi que ce soit sur elle. Ainsi, cela devenait, Sarah était devenue une protection de Dieu. C'est un signe. Hein? C'est Dieu au travers d'Abimélec qui met comme un voile sur Sarah, afin que Abraham n'ait plus de problème. De nouveau, il faut faire attention aux idées, à l'imagination et aux préjugés qu'on a sur les autres. Tu ne sais pas si c'est un enfant de Dieu, celui à qui tu as affaire. Tu risques d'être couverte de honte. Abimélec connaissait Dieu. Ici, Abraham ne va pas être chassé parce que Abimélec connaît, savait qu'avoir un prophète dans le pays est une bénédiction. Il va lui donner, il dit, établis-toi là où tu veux, tu es libre. Tu es libre et vis au milieu de nous. Il est bon de reconnaître les prophètes. Parce que c'est une grande bénédiction. Donc, Abimélec va lui proposer de rester dans le pays et qu'il pouvait s'installer où il voulait. Dans tout ça, c'est Dieu qui prend soin d'Abraham. Il lui donne des richesses. Pour nous, nous pouvons penser que c'est des moyens détournés, mais c'est les moyens que Dieu a utilisés pour que Abraham soit puissant. Ceci nous montre que être dans une alliance avec Dieu est capital. Remarquez, c'est le plus fort qui entre en alliance avec le plus faible. Dieu entre en alliance avec Abraham et c'est Dieu qui devient son protecteur. Comme l'homme entre en alliance avec sa femme et l'homme devient le protecteur de la femme. Celui qui expose sa femme n'est vraiment pas sage. Faites tout pour être dans l'alliance avec Dieu. On le voit aujourd'hui, si vous suivez les informations, les Américains, l'Europe est en train de paniquer parce que les Américains ne veulent plus tellement assurer leur couverture. Parce que l'OTAN était tenue, hein, le principal contributeur, ce sont les États-Unis. Et comme les États-Unis veulent se retirer ou ne veulent plus assumer leurs responsabilités tant que l'Europe n'augmente pas sa contribution à l'OTAN, c'est, vous entendez, des réunions sur réunions en Europe. Parce que le plus fort est une protection pour le plus faible. Et donc, on a besoin que Dieu nous fasse grâce pour entrer dans cette alliance-là. Vous avez entendu l'appel de Dieu, c'est une très bonne chose, mais l'appel n'est pas la fin de la chose. Nous voyons la marche d'Abraham. Il est sorti, c'est vrai, mais beaucoup de choses encore peuvent s'écouler entre la sortie et le temps où Dieu scelle l'alliance avec vous. On verra quand Dieu nous le permettra, pour voir que Abraham va avoir le fils promis. C'est un type de fruit de l'esprit. Hein? C'est le fruit de ses entrailles. C'est le type de fruit de l'esprit. Mais si Dieu nous le permet, on en reparlera prochainement. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci Père, ô Dieu, pour ton amour et ta grâce qui nous a permis de partager ces quelques moments, suivant les traces, ô Dieu, du Père de la foi, nous voyons combien ta grâce a agi dans sa vie. Et c'est la même grâce aujourd'hui qui agit sur chacun de nous, Père, du moins ceux que tu as appelés, Père. Et nous croyons que tu nous as appelés. C'est vrai, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être, mais nous ne sommes plus ce que nous étions. Et nous croyons, Père, en cette transformation que tu continues à produire en chacun de nous, jusqu'à ce que l'image de Christ soit reflétée en nous. Aide-nous, Père éternel, à marcher avec crainte et discernement, car les temps sont mauvais. Et la seule protection que nous pouvons avoir, c'est être en alliance avec toi. Et il nous est dit, cela ne dépend pas de celui qui vient, de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Ne nous oublie pas, Père, car, ô Dieu, tu as mis en nous cette soif de toi. Aussi viens étancher cette soif, Père éternel, et accomplis ton œuvre en chacun de nous, Père. Bénis chacun de nous, Père. Souviens-toi, ô Dieu de miséricorde, que c'est toi et toi seul, Père éternel, ô Dieu, qui fais enfanter les biches. C'est toi, Père éternel, qui es le créateur des choses visibles et invisibles. Ô Seigneur, que tu transformes chaque cœur ici présent, comme le frère le disait encore l'autre fois. Dans Ézéchiel, il est parlé de changement de cœur, Père éternel, et changement d'esprit où tu mettras toi-même ton esprit, ta parole en chacun de nous, afin que chacun vive selon toi, Père éternel. Un temps vient, Père éternel, où il n'y aura plus personne pour enseigner son frère, mais la connaissance de Dieu sera en chacun. Fais grâce, Père éternel, à chacun de nous, Père. Nous comptons sur ta miséricorde. Raccompagne-nous, Père, en toute sécurité, Père, et bénis, ô Dieu, ce week-end, dans nos réunions, dans nos méditations, dans nos prières, que tu y sois attentif pour nous exaucer. Souviens-toi de nôtres qui sont souffrants, Père éternel, ô Dieu, et pour lesquels nos prières sont constamment devant toi, que tu interviennes selon ta grande miséricorde, Père éternel. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.